RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagroulet, qui est directeur des relations investisseurs d'entrepreneurs de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alain.
Ainsi que Ludovic Beribos, qui est associé et directeur des opérations commerciales et marketing du groupe EPSA. Bonjour Ludovic.
Bonjour Alain.
Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Gérald Carsanti, qui est président directeur général de SAP France. Bonjour Gérald.
Bonjour Alain.
Alors vous êtes né en 1962 dans une très belle ville qui s'appelle Nantes, diplômé de Sciences Po, d'HEC et d'Oxford. Un souvenir de votre premier job chez IBM. Gérald, vous faisiez quoi exactement dans la boîte ?
Ah, moi j'ai commencé dans le commercial, c'est là qu'on apprend un peu tout. Et mon meilleur souvenir on va dire, parce que j'en ai beaucoup, c'est peut-être la signature d'un très gros projet chez Yves Rocher.
Ah oui.
Parce que c'était très local, c'est-à-dire qu'il fallait aller à la Gacilly, là où l'entreprise est née. Il fallait créer une empathie avec le client, etc. Et j'étais tout jeune, et donc on allait au restaurant, c'était tout nouveau pour moi. on prenait du vin, c'était tout nouveau pour moi. Et puis
vous avez appris la vie quelque part.
Oui, voilà,
la vie du business, quoi.
En quelque sorte.
Alors ensuite, vous avez fréquenté pas mal de grands groupes mondiaux. Un souvenir par entreprise, en commençant par Capgemini.
Ah bah Capgemini, c'est une entreprise... Ah bah le rugby.
Bien sûr, avec Camp, on n'a pas le choix. Là. Non, on n'avait pas le choix, quoi. Et ensuite, HP pendant une belle période. Hein.
Bah HP, c'est une magnifique... Alors, ça a beaucoup changé. À l'époque où j'y étais, c'était une superbe entreprise. Je dirais innovation, quoi. C'est une entreprise d'innovation très technologique.
Ensuite, Oracle, vous avez succédé à un personnage célèbre.
Oui, alors, on peut dire ça. Oracle, c'est une entreprise qui, je dirais que le mot qui me vient, c'est base de données, bien sûr, parce que c'est là qu'ils ont fait leur réputation, on va dire. Une entreprise de software, une belle entreprise de software.
Et aujourd'hui, donc, vous êtes le patron de SAP France. Alors, un mot sur l'historique de la compagnie et les métiers de ce géant allemand.
Alors, l'entreprise, d'abord, vous avez raison, parce qu'en fait, effectivement, c'est une entreprise allemande. C'est un point important parce que c'est la première société tech européenne et qui peut, on va dire, entre guillemets, avoir un certain poids par rapport aux géants américains et asiatiques. C'est une entreprise qui est née dans l'ERP, hein, c'est son métier de base. C'est le leader mondial de l'application. Toute application confondue, puisqu'on est aussi bien dans la gestion des ressources humaines, les achats, la logistique, le supply chain, etc. Notre cœur business reste quand même l'ERP et la finance.
La France, est-ce que c'est un pays stratégique, Gérald, pour la compagnie ?
Alors, je veux le croire, oui. c'est le cinquième pays pour SAP au monde, donc c'est quand même un pays important. Oui.
Alors aujourd'hui, vous êtes sur ETI Radio, merci d'avoir répondu présent. Votre regard sur les ETI à la française versus parfois les allemandes, hein, votre actionnaire est allemand.
C'est super important, puisqu'on le sait qu'en particulier dans certains pays comme la France, mais l'Italie, il y a plein de pays en Europe où les ETI font la croissance. Donc on a beaucoup investi, puisqu'on était réputé pour être présent chez les très grands clients et les grands clients, ce qui est le cas. Mais depuis quelques années, on a beaucoup investi dans les PME, PMI et les ETI. Et les ETI, c'est on a une attention particulière pour les ETI. Ça représente quand même tout cumulé pas loin d'un peu plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires, quand même.
Ah, quand même,
ce
oui.
qui est quand même pas rien.
Et sinon, donc le reste, ce sont les grands comptes et grands comptes d'abord. Hein.
Oui, on est à peu près partout dans les grands comptes, mais voilà, après, entre les PME et les ETI, on frôle presque les 40%.
Ludovic ?
Alors, déjà, très honoré de rencontrer Gérald, puisque c'est quelqu'un qui communique beaucoup, on a un point commun, on s'est croisé tout à l'heure, j'ai travaillé chez HP.
Ah, chez HP,
c'est une référence quand on est passé chez HP.
Est-ce que vous étiez high potential à l'époque ? Parce que vous avez quand même plutôt bien évolué depuis.
Je ne sais pas, en tout cas, j'ai dû le devenir. En tout cas, je n'ai pas fait ma carrière chez HP, mais en tout cas, ravi de rencontrer Gérald et puis
ravi également.
Pour l'interviewer sur les sujets d'SAP. Moi, j'ai un premier sujet qui concerne les marketplaces. C'est vrai que vous avez des systèmes de gestion, on voit de nouveaux entrants, notamment sur le marché et les marketplaces. On voit peu de positions de la part d'SAP, quelques partenariats avec quelques acteurs. Pour en citer un, Miracle.
Oui.
J'aimerais savoir quel type d'initiative ou comment vous percevez cette nouvelle concurrence.
Moi, je le perçois plutôt comme une opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, les marketplaces se développent dans tous les domaines et il faut être présent. Il faut être présent pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils sont potentiellement clients de nos technologies et puis aussi parce que c'est des partenaires et qu'on peut aborder des secteurs d'activité, défricher des terrains nouveaux. Par exemple, tout ce qui concerne l'emploi, on investit beaucoup sur les marketplaces au niveau de l'emploi. Parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, il y a un problème pour trouver. C'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que on a d'un côté du chômage et de l'autre toutes les sociétés, notamment de services, cherchent des compétences. Et on a d'ailleurs développé des programmes. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais des programmes pour justement faire en sorte que des personnes qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage, puissent être formées dans l'environnement SAP et retrouver un travail chez SAP, mais surtout dans notre écosystème. Et ça, ça fait toute la différence. Donc non, les marketplaces, moi, je vois ça comme une opportunité.
Ok, puisqu'on parle de la gestion des talents, on va rester sur ce sujet-là. Comment on fait pour intéresser dans une boîte allemande des jeunes talents en rejoignant un programme ou un projet d'entreprise type SAP?
À rejoindre SAP, en fait.
À rejoindre SAP, oui.
Il faut un président charismatique et dynamique, c'est ça.
Voilà, déjà, ça, c'est la condition numéro un, bien sûr. Non, plus sérieusement, en fait, on veut attirer de jeunes talents, aussi des talents expérimentés, parce qu'on recrute à tout âge, et aussi bien des hommes que des femmes, des jeunes gens et des jeunes femmes. Pourquoi ? Parce que la parité, c'est super important pour nous. Donc, que ce soit pour les jeunes gens ou jeunes filles, on a développé un discours très différent de celui que nous avions il y a quelques années. Pendant plusieurs années, on communiquait sur les produits et sur la technologie en elle-même. On s'est aperçu que ça fonctionnait, mais pas tant que ça, notamment pour la population féminine. On a donc changé notre discours et on a plus été sur le sens, c'est-à-dire à quoi sert cette technologie. Donc, quand on vient à notre siège à Levallois, bien, on voit des chambres d'hôpital connectées, où on voit comment nos technologies permettent de sauver des vies, des farmbots, où on aide à changer, à mieux s'alimenter, des centres de météorologie pour mieux prévoir, des magasins connectés, des ateliers 4.0, des usines 4.0. Donc là, les jeunes, en particulier quand ils viennent nous voir, et on en reçoit beaucoup, ils ont un peu les yeux écarquillés parce qu'ils se disent c'est au moins on va faire un job qui sert à quelque chose.
Alors je confirme et j'ai la chance d'avoir été dans vos locaux à Levallois, d'avoir vécu cette expérience du centre d'innovation et ceux qui ne l'ont pas vécu et pour nos auditeurs, c'est absolument incroyable, vraiment, très sincèrement, on vit dans le futur. Il y a des champs d'application qui sont exceptionnels et vraiment, je me rappelle à l'époque, vous aviez une promesse qui est dit on avait fait gagner l'équipe allemande, puisque à l'époque l'Allemagne était championne du monde et ça démarrait comme ça. La promesse était on va vous expliquer comment l'équipe, on a fait gagner la Coupe du Monde à l'équipe d'Allemagne. La question d'après, c'est qui gagne à la prochaine Coupe du Monde?
Alors le sport, c'est super important puisqu'on est dans le basket, la NBA, on est dans l'athlétisme, on est dans tout un tas de sports, mais sur le football, on a également été acteur au niveau de l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde. Donc,
l'a gagné un peu grâce à SAP, on peut le dire maintenant.
Oui, c'est vrai. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais en tout cas, on a contribué quelque part. Le sport, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de l'aspect business, parce qu'il y a toujours bien sûr du business derrière, mais il y a quelque chose de plus important, c'est que c'est un environnement par excellence où on peut tester le management des données. Par excellence. Et le foot a quelque chose de fantastique, c'est qu'on peut faire du semi-temps réel. Le vrai temps réel, c'est le rugby. Parce qu'au rugby, il n'y a pas de pari, donc on peut donner l'information directement. On est obligé d'avoir un petit décalage en football. Mais néanmoins, le coach, il se retrouve avec une tablette et sur sa tablette, il a les données en direct et avec des données qui concernent le match, évidemment, le nombre de passes, etc. Mais aussi sur la santé physique des joueurs, notamment dans le rugby. Ils ont des capteurs sur eux et on peut savoir à quel moment il faut sortir un joueur parce que son genou a des risques de lâcher. Donc le sport, c'est super important pour SAP.
Ludovic ?
Oui, dernière question, pour revenir sur des sujets un peu plus de fond, sur la RSE, la cybersécurité, on voit qu'un risque qui est majeur aujourd'hui identifié en matière de risque, c'est la cybersécurité. J'aimerais savoir quel type de solution vous apportez aujourd'hui au marché ou à des clients dans ce domaine en particulier.
La cybersécurité, alors on a nos propres solutions, bien sûr. En fait, la sécurité, c'est complexe parce que ça touche toutes les strates du système d'information. Les clients nous demandent évidemment d'avoir des produits, des logiciels qui sont totalement sécurisés, mais comme c'est du cloud maintenant à 95%, c'est ou dans nos data centers ou dans le data center de nos partenaires, les hyperscalers, Amazon, Google, Microsoft, bien sûr, Azure, ou alors des partenaires autres, privés, qui ont des data centers. Et là, il faut avoir une sécurisation des données totale, en respectant toutes les règles que vous connaissez. Et puis, nous avons nos propres solutions pour sécuriser de bout en bout tout le flux d'informations. Et c'est un sujet qui est évidemment critique.
Arnaud ?
Oui, Gérald, je vais vous demander, je vous écoute, vous êtes travaillez dans un groupe qui est incontestablement leader mondial. Comment est-ce qu'on arrive à être innovant quand on est aussi gros, aussi leader, aussi important, aussi incontournable ?
Ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, parfois, c'est bien d'être second. Alors, d'abord, on est leader, c'est vrai, mais on n'est pas leader sur tous les segments. C'est-à-dire qu'on est large, on est bout en bout. Il y a des segments dans lesquels on est leader, je l'ai dit, la finance, le RP. Il y a d'autres secteurs où on est numéro 2 ou numéro 1 ex aequo, donc c'est challenging. Je pense que dès lors qu'il y a de la compétition, et c'est sain, moi j'adore la compétition, c'est là où on innove. Et l'innovation, elle est constante. Alors c'est de l'innovation qui peut se faire par... on a une intuition, on se dit, il faut aller dans un secteur d'activité, on fait une acquisition, Business Object en 2008, fantastique acquisition pour SAP, on rentre dans l'analytique, la gestion des données, au bon moment en plus, c'est génial. Ou alors un deuxième exemple qui a changé la donne, c'est au milieu des années 2000, un des fondateurs d'SAP, Asso Plattner, a cette idée de dire comment je peux finalement être en temps réel. On sait que le temps réel, c'est absolument vital, et il y a cette idée magique de dire on va mettre les données au niveau de la mémoire vive, c'est-à-dire au niveau de l'application, donc on va être beaucoup plus performant, et au passage, on peut se passer d'autres bases de données. Donc ça a changé la donne complètement, et c'est aujourd'hui ce que nos clients sont en train d'installer, les versions cloud, ANA, et ça a apporté une valeur ajoutée assez colossale. Donc l'innovation, pour répondre complètement et rapidement, on a aussi un accélérateur de start-up chez SAP. Donc on accompagne une cinquantaine de start-up. Et puis on a un système d'intrapreneuriat. D'ailleurs, je suis intervenu ce matin auprès des salariés d'SAP. On les incite à réfléchir à la façon dont ils peuvent bousculer, changer, trouver des idées, les soumettre sous forme de projets qui peuvent être accompagnés par SAP. L'idée, c'est très simple, c'est de dire de toute façon, quelqu'un qui a envie de créer, il va le faire. Alors autant qu'on l'accompagne. S'il reste chez SAP, c'est génial. S'il s'en va, ben, il créera quelque chose qui fera du business autour d'SAP. Donc on est très tourné sur cette innovation permanente et je pense qu'il faut au contraire la solliciter, la pousser, l'encourager.
Alors justement, par exemple, vous pourriez nous dire combien vous avez aujourd'hui de startups en incubation, combien il y a de projets, quelle est la part, le nombre de salariés qui ont candidaté, les montants investis que vous mettez à leur disposition.
Vous êtes bien inquisiteur, Arnaud. Là,
non, c'est pour donner envie à nos auditeurs aussi de travailler cette approche.
Globalement, on a une accélération. C'est pas un incubateur, hein. C'est un accélérateur.
D'accord.
C'est très, très équivalent à Village by CA du Crédit Agricole, qui est formidable. Quand j'étais chez HP, on avait investi sur ce programme. Quand je suis arrivé chez SAP, première chose que j'ai fait, j'ai signé un partenariat avec Village by CA. Donc on est très similaires, sauf que évidemment ils sont plus gros que nous, mais on a une cinquantaine de start-up qui se renouvellent. On le fait par cohorte, c'est-à-dire qu'on prend des sujets. Ça peut être par exemple tout ce qui tourne autour du climat, et on va chercher des start-up qui investissent et qui développent des solutions pour le climat, sujet important. Puis une autre fois, ça va être un autre sujet, les fintech, etc. Et ça, c'est important. Et la deuxième partie de la question, c'était...
Combien de collaborateurs aussi
on est projet. Alors là, je ne peux pas dire parce qu'en fait, pour être franc, on est en train de le lancer.
Oui.
Et donc là, ben, justement ce matin, on leur a expliqué ce qu'on attendait et ils ont jusqu'à fin mai pour s'inscrire. Mais on a été pas surpris, mais c'est réconfortant. On avait vraiment un nombre de personnes connectées absolument incroyable. Donc ça veut dire que. En fait, la réalité, c'est que tout le monde a envie aujourd'hui...
Il y a un rêve quelque part aussi.
Oui, il y a un rêve de l'entrepreneuriat. Après, être entrepreneur n'est pas donné à tout le monde. Il faut accepter le risque associé. Il faut passer à l'acte. Parfois, c'est aussi confortable de le faire dans un cadre comme SAP. Mais en tout cas, voilà, l'idée de générer des idées, c'est génial.
Alors, vous avez également investi dans différentes sociétés. Vous êtes un business angel, Gérald. Alors, les clés pour ne pas se tromper, parce que nous, ça nous intéresse tous. Hein.
Alors... Je vais sûrement pas donner de leçons, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup être au contact de start-up et les accompagner. Certaines sont en train de vraiment de bien réussir. Moi, modestement, je dirais que la première chose que moi en tout cas je regarde, c'est les dirigeants. parce qu'on sait qu'une idée, on peut la faire pivoter, comme on dit traditionnellement, et c'est pratiquement toujours le cas. Il n'y a pas une idée qui reste fixe, en fait, entre le moment où l'idée a germé, puis le moment où on lance vraiment la société, la start-up, elle s'est déplacée. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une confiance dans les dirigeants. C'est qu'il faut avoir des personnes qui sont quand même, qui sont visionnaires dans leur secteur, qui sont opérationnelles, capables d'y aller, et puis surtout qui ont le moral,
quoi. La niaque aussi.
La niaque, parce que en fait il y a quand même, même si aujourd'hui c'est quand même, ça a beaucoup changé le monde de la tech et des startups en France, honnêtement, sur ces 5, 6, 7 dernières années, ça a beaucoup changé. Mais ça reste quand même un parcours compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des obstacles, donc il faut savoir les franchir, et donc ben les seniors, on va dire ça comme ça, on apporte aussi notre contribution. Mais inversement, ce qui est génial, c'est que les jeunes qui créent des startups nous apportent aussi
une valeur. Bien sûr, il y a un véritable échange, quoi.
Ouais,
pour terminer, Gérald, le plus beau métier du monde, c'est patron d'une belle entreprise ou archéologue?
Bon, je vais dire les deux, mais archéologue, c'était mon rêve d'adolescent, on va dire, et quand j'étais jeune, et je le poursuis toujours, puisqu'en fait j'écris des livres sur, je m'intéresse à l'histoire, et je pense que dans ma tête je suis toujours un peu archéologue, je cherche en tout cas quelque chose.
Merci beaucoup Gérald, merci également vous Arnaud et Ludovic. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.